Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Hello. Il est 9h40 sur France Inter, soyez les bienvenus dans l'instant
c'est
M.
C'est énorme ce qui s'est passé les chéris.
Vous êtes en direct, allez-y.
De quoi vit Daesh ? Quelles sont ses ressources, ses mannes, ses partenaires financiers et ses clients ? Enquête ciselée sur le cartel mafieux que constitue l'État islamique, sur les circuits de son argent et sur ses trésors de guerre. Deux journalistes à la rencontre des agents, des intermédiaires, des repentis et des cadres de l'organisation terroriste pour mieux comprendre l'économie et le business.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Benoît Faucon.
Bonjour. Enchanté.
Vous êtes grand reporter, mais moi aussi enchanté, oui, surtout bon. Que vous avez décalé votre retour à Londres, où vous habitez normalement. Vous êtes grand reporter au Wall Street Journal, vous êtes donc basé à Londres, où vous enquêtez sur le financement du terrorisme et sur le blanchiment d'argent. À vos côtés, Clément Fayol, bonjour.
Bonjour.
Journaliste d'investigation, vous collaborez entre autres avec Le Monde, avec Le Point. Alors votre livre à tous les deux s'intitule « Un cartel nommé Daesh » et il sort aux éditions First. On y vient dans une minute. D'abord, un mot, assez long d'ailleurs, d'actu des médias. Après sa une montrant Tariq Ramadan avec un énorme sexe en érection après une semaine de menaces de mort, l'hebdomadaire Charlie Hebdo sort ce matin en kiosque avec ce dessin. Il est signé Coco. Le visage d'Edoui Plenel affublé de longues moustaches qui lui cachent les yeux, la bouche et les oreilles. Titre, je cite, « Affaire Ramadan, Mediapart révèle, on ne savait pas ». La société des journalistes de Mediapart, dont Edoui Plenel est le fondateur, réagit ce matin sur le site d'info. Je cite, « La liberté d'expression et de caricature, dit Mediapart, ne sont pas négociables. C'est le cœur de notre démocratie. Toutefois, elle ne nous donne pas licence pour désinformer et pour calomnier. Pour Mediapart, donc, la une de Charlie accuse Edoui Plenel d'avoir couvert un violeur. Le site d'info rappelle qu'il a publié une longue enquête sur Tariq Ramadan en 2016. Celle-ci, ça c'est moi qui l'ajoute, avait d'ailleurs provoqué la colère de Ramadan, mais vraiment la colère. Il avait d'ailleurs tourné une vidéo à ce sujet. Mediapart affirme n'avoir eu aucune connaissance de la moindre accusation de viol ou de harcèlement à l'époque, quand de son côté, la journaliste Caroline Fourest dit, elle, savoir cela depuis 2009. Règlement de compte donc, par une interposée entre Charlie Hebdo et Mediapart, dont les partis pris, vous le savez, idéologiques divergent franchement. On regrettera peut-être que Charlie Hebdo n'ait accompagné sa une d'aucun article, d'aucun édito étayant ses accusations.
Nous allons parler ensemble du budget que présente le gouvernement à l'Assemblée nationale. Vous êtes l'avocate de ce budget.
Qui dit accent dans les médias dit Jean-Michel Apathy. Je vous conseille vivement de lire sur le site de Slate la très longue enquête sur ces accents en tout genre que la télé et la radio s'échinent à gommer. Ça commence d'ailleurs dès l'école de journalisme.
Première étape, l'Azerbaïdjan, son pétrole, son gaz et sa dictature, l'une des plus féroces au monde.
Laurent Richard et Élise Lucet étaient poursuivis pour avoir qualifié lors d'un cache investigation l'Azerbaïdjan de dictature parmi les plus féroces au monde. Vous venez de l'entendre dans la bouche d'Élise Lucet. Procès en diffamation inédit, un État étranger contre des journalistes. Plainte jugée irrecevable hier par le tribunal correctionnel de Nanterre. Les juges se sont donc bien gardés de juger sur le fond, c'est-à-dire d'avoir à trancher sur la nature du régime azerbaïdjanais. Benoît Faucon, Clément Fayol, vous vous attendez à ce type de procès après ce livre où vous vous mettez la moitié des États d'Occident et du Proche-Orient à dos ? Oui.
Non, en fait, procès est un précédent au sens
absolument.
Où il évite effectivement une censure globale des États concernant tous les propos qui pourraient être tenus sur eux. Effectivement, dans le livre, on cite beaucoup de pays et en fait, généralement pas de manière très favorable, en tout cas sur leur impuissance à lutter contre Daesh.
Ah, sur l'impuissance, Clément Fayol aussi, vous pointez des régimes despotiques, vous qualifiez de despotiques.
Oui, mais là, ce qu'on fait, on essaie d'être assez précis, c'est-à-dire qu'on essaie d'éviter le côté un peu café du commerce en disant tel pays a fait ou tel pays a fait. On montre que certaines activités illégales ont lieu, on montre que des officiels collaborent sur ces activités illégales. Après, plusieurs fois, on dit que nous ne savons pas, parce que nous ne sommes pas dans les couloirs des différents États, nous ne savons pas où la décision a été prise. Mais c'est vrai que ce procès, on l'attendait tous, parce que se faire attaquer par un pays... pour diffamation, c'est quand même...
C'est globalement museler l'investigation si ça avait débouché. Alors, je redonne le titre de votre livre, Un cartel nommé Daesh. Très longue enquête, très précise, très illustrée. Elle est pleine de personnages très hauts en couleur. On peut peut-être commencer par cette liste secrète, 389 membres. Alors, vous avez tout eu, leurs identités, leurs fonctions dans l'organisation, les dates, les lieux d'entrée et de sortie de différents territoires. D'ailleurs, vous, journaliste, vous avez rencontré plusieurs de ces personnages. Vous racontez souvent des séquences très hautes en couleur et vous prenez parfois la décision de conserver leur pseudonyme. Vous dites que ça n'est pas à vous de dévoiler leur véritable identité, Clément Fayol.
Oui, alors on en a beaucoup discuté. C'était vraiment, plusieurs cas de conscience comme ça. Mmh. Et c'est vrai que nous, notre travail, comme c'est un travail de terrain qu'ensuite on recoupe, il faut faire très attention à ne pas se substituer à la justice.
Oui.
Et c'est vrai que à chaque fois qu'on parle d'un personnage, à chaque fois qu'on évoque une individualité, c'est parce qu'on estime que ça a un intérêt général.
Voilà.
Et donc l'intérêt général, c'est de faire comprendre l'État islamique au public, mais ça n'est pas de faire en sorte que cette personne aille en prison ou non.
Ah.
Et donc c'est après à la justice, au service de renseignement, de faire leur travail et pas à nous.
Benoît Faucon, vous commencez par décrire un État islamique gangréné par la corruption et le favoritisme. C'est très intéressant parce que ça va de pair aussi avec une économie centralisée du type soviétique, avec des confiscations et des monopoles. Finalement, on a l'impression, de rentrer dans une économie de dictature, enfin de régime despotique.
Voilà, à la fois despotique et corrompu, c'est quand même un système de ruffians. Donc on évoque par exemple effectivement cet ancien grand amateur de whisky, braconnier, qui rejoint l'État islamique par pur profit et qui devient le monsieur antiquité, la danseuse du ventre, qui elle aussi rejoint l'État islamique pour faire du trafic avec Assad. Et puis évidemment un membre des services secrets donc de l'État islamique à Raqqa, qu'on retrouve, qu'on suit sur plusieurs années en fait, et qu'on retrouve trafiquant de cocaïne à Thessalonique en Grèce quelques mois plus tard. Donc effectivement, on sent l'opportunisme du début à la fin,
oui,
et aussi la déception des membres, c'est-à-dire ces membres qui voient cet argent être volé par les autres, par ceux qui ont rejoint l'organisation par pur opportunisme.
Ce qui les pousse à vous parler, Clément Fayol ?
Déjà plusieurs choses. Benoît avait cette filière depuis très longtemps, et donc c'est un collectif qui vient de Des Résors et qui avait la confiance d'un certain nombre de transfuges parce qu'ils les ont aidés à sortir et à se mettre à l'abri. Mm-hmm. Donc déjà ça crée une relation de confiance. Et puis ensuite ils ont vu que petit à petit on n'essayait pas de les piéger, qu'on essayait de comprendre, et certains même sont militants et veulent montrer un peu quelles sont les brebis galeuses parmi les réfugiés pour éviter qu'on pense que tous les réfugiés sont des terroristes. Eux disent non, lui je l'ai vu à tel endroit, en Syrie, commettre telle atrocité. Et c'est un échange.
Alors, vous plongez au cœur, Benoît Faucon, on va dire, des partenariats économiques parfois les plus inattendus dont bénéficie l'État islamique. Et vous pointez celui qui est officiellement le pire ennemi de Daesh, c'est-à-dire le régime de Bachar el-Assad. Vous parlez d'accointance économique à plusieurs niveaux, vous parlez même, ce sont vos mots, d'un partenariat économique profond. On ne s'y attendait pas.
Effectivement, mais on a récupéré des procès-verbaux, en fait, de long terme. Dès 2007, on a déjà des éléments qui montrent que des éléments de ce qui va devenir l'État islamique transitent très régulièrement près du palais présidentiel à Damas. Donc c'est très ancien, cette relation. Et puis durant la guerre, là, il y a un vrai intérêt des deux côtés, c'est-à-dire que l'État islamique a le pétrole. Et de l'autre côté, par exemple, typiquement, Assad et les fertilisants dont a besoin l'État islamique pour faire ses bombes, qu'il va peut-être d'ailleurs envoyer sur Assad. Mais les deux parties sont d'accord, finalement, pour financer leur propre conflit.
Ça se raconte quand même, ces échanges de pétrole contre fertilisants. Donc oui, parce que au final c'est pour fabriquer des explosifs,
c'est pour se faire la guerre.
Oui, c'est pour se faire la guerre, ouais, c'est ouais. Ça. Et puis il y a une dépendance énergétique,
voilà,
aussi des deux côtés.
Exactement. Et donc on a des camionneurs qui nous racontent, on va livrer donc notre pétrole de Daesh chez Assad et on est payé par Assad. Notre salaire vient d'Assad pour travailler pour l'État islamique. Donc une sorte de symbiose très forte entre les deux.
Et puis vous racontez aussi que tout le premier cercle du régime de Bachar el-Assad est le premier à en profiter.
Oui, absolument. Comme c'est une économie de guerre, c'est les plus influents à Damas qui vont canaliser ces flux financiers.
Voilà, ouais. Donc il y a toutes les descriptions de tous ces profiteurs de guerre.
Oui.
Que finalement. Et vous concluez par, finalement, que c'est la plus grande fiction de Bachar el-Assad, celle du rempart contre le terrorisme mondial. mondiale. Et vous dites, c'est du même acabit que celle des Américains et de leur anthrax imaginaire.
Alors, c'est en fait le principe où dès 2009, donc je vais à Damas, je rencontre les services là-bas. Et donc, ils me disent, nous sommes le rempart. Mm-hmm. Ce que je ne sais pas, c'est effectivement au même moment, ils accueillent des gens d'Al-Qaïda. Donc effectivement, il y a toujours un double jeu qui maintenant est quasiment à visage découvert.
Voilà, exactement, ouais. À visage découvert. Alors on va petit à petit tirer tous les fils de ces réseaux mafieux et notamment des trafics qui vont de pair. Il y en a un qui a déjà été largement médiatisé, mais alors il vous fait rencontrer des figures assez inattendues, tout droit sorties de thrillers ou de films de James Bond auxquels vous faites référence. Les antiquités islamiques, par exemple.
Nous sommes dans la partie moderne de Pamir. Ce sont les nouveaux maîtres de la ville et ils veulent que tout le monde le sache. Peu d'images nous parviennent en revanche de la cité antique. C'est pourtant sur cette partie de Palmyre que tous les regards internationaux sont braqués. L'inquiétude grandit d'heure en heure jusqu'à la Maison Blanche.
Ce site abrite des ruines historiques et des artefacts qui, de façon assez ironique, sont essentiels à notre compréhension de la culture et de l'histoire de l'Irak et de la Syrie.
Clément Fayol, vous dites que les premiers pilleurs de ces sites archéologiques, ce sont d'abord les habitants qui meurent de faim.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'au début, dès le début de la guerre, quand les gens sont désœuvrés, qu'ils n'ont rien à faire, ils savent qu'ils ont les pieds sur un sous-sol qui est gorgé d'objets très précieux, parce que c'est quand même le lieu, c'est le berceau de l'humanité. Il y a toutes les cultures, toutes les civilisations. Et donc, ils commencent effectivement à creuser et très très vite, ils pillent et ils récupèrent pour survivre.
Alors, loin des caméras, l'État islamique... face aux caméras, l'État islamique va bien entendu procéder à tous ces saccages auxquels le monde entier a assisté. Et loin des caméras, qu'est-ce qui se passe alors ?
Il y a quand même un ministre des ressources qui s'occupe du pétrole et aussi des antiquités et qui organise justement ce pillage, qui organise les filières d'acheminement vers l'étranger et qui se sert de ces ressources qui sont énormes pour se financer.
Benoît Faucon, il y a des clients qui viennent du monde entier, notamment des Israéliens.
Voilà, donc le principe, c'est cette culture d'entreprise très propre à Daesh, où on recrute quelqu'un qu'on menace d'abord d'exécuter, et puis après on en fait son revendeur, et ce revendeur donc que j'ai rencontré, tout le monde défile chez lui à Istanbul, donc de toute la planète, ils vont aux Russes, quand les Russes veulent avoir des Bibles, parce que c'est très État islamique, on vend vraiment à tout le monde et toutes sortes de choses, à des Américains quand ils veulent des bijoux, à des Israéliens quand ils veulent des objets anciens
hébraïques. Et nul n'a de scrupule à se fournir auprès de revendeurs de l'État islamique.
Voilà, puisqu'il y a plusieurs écrans entre deux, ils ne vont pas directement évidemment à Raqqa acheter ces objets, donc ils ont affaire à des gens tout à fait polissés, etc., et ils ne posent pas de questions.
Tout le monde sait d'où ça vient ?
On peut deviner quand on sait que le territoire concernant ces objets est sous contrôle de l'État islamique, qui viennent de l'État islamique.
Alors, d'autres types de trafic que vous décrivez, un assez inattendu là aussi, l'alcool. Vous dites que ça a été un des principaux pôles d'enrichissement de l'État islamique, Clément Fayol.
Oui, en fait, ce que nous on montre, c'est que en fait, quand Daesh a émergé, c'est devenu une entité qui s'est installée avec les réseaux criminels préexistants. Et donc, Nous, on nous parle de contrebandiers d'alcool qui voulaient amener leur alcool en Iran, comme ils ont toujours fait depuis le Kurdistan irakien, et que comme il fallait passer par le territoire de l'État islamique, et il a fallu s'arranger avec les nouveaux patrons du coin. Et ce qu'on nous raconte, d'ailleurs, qui est assez amusant, c'est que la première fois, quand ils s'étaient mis d'accord sur un accord pour passer, ils avaient peur que l'État islamique ne soit pas fiable. Et ils ont d'abord commencé par acheminer de la bière parce que les pertes auraient été moins importantes qu'avec le whisky.
Benoît Faucon, alcool, drogue également, et pas seulement à destination des combattants. On a beaucoup parlé du captagon, cette espèce d'amphétamine dont on dope finalement ceux qui vont au front. Mais vous dites qu'il y a aussi un marché phénoménal à destination des classes moyennes du Golfe.
Alors là, c'est plus sur la levée de fonds. C'est-à-dire que les notamment en Arabie Saoudite, c'est ce modèle idéologique qui déçoit souvent, notamment les vrais croyants, on va dire, parce que c'est quand même géré par les princes, etc. Et donc, on rencontre notamment un émir saoudien qui lui a rejoint l'État islamique parce qu'il estimait que c'était le vrai État, justement, islamique, par définition. Il voit beaucoup de corruption, il voit beaucoup d'émirs égyptiens qui partent avec la casse, etc. Donc, il est très déçu. On le rencontre au moment où il est en transition et là il est en train de rejoindre Al-Qaïda. Mmh. Donc ça veut dire que la menace va continuer peut-être sous d'autres formes.
sous d'autres formes. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que finalement, c'est toute la leçon de cet ouvrage. Vous dites que Daesh redevient une organisation souterraine petit à petit au fur et à mesure où elle perd son territoire et qu'il ne va rester de cette organisation souterraine que les pendants les plus dangereux. Le business d'un côté, les attaques terroristes de l'autre.
Oui, exactement. Donc en fait, là, il y a une stratégie de long terme qui fonctionne, c'est-à-dire l'envoi de gens en Europe, souvent des Irakiens et des Syriens, très expérimentés, qui préparent potentiellement des attaques. On a des noms, on a des visages, on sait qu'ils sont suivis, mais il y a la zone Schengen, ils peuvent se balader partout en Europe.
Ils peuvent se balader partout, et pour ce qui est du business et de ces filons financiers, vous dites aussi que, par exemple, tous les cadres de l'État islamique ont réparti leurs richesses dans du patrimoine en dur, un peu partout au Proche-Orient, et que c'est devenu la nouvelle obsession des services secrets américains et britanniques.
Voilà, on a connaissance, par exemple, d'usines de dates, de cimenterie, etc., de délocalisation du cash aussi, on envoie des coursiers qui envoie le cash à Dubaï, en Asie du Sud-Est, etc. Donc l'État islamique s'est délocalisé, mais justement il devient peut-être plus dangereux, parce qu'il est invisible, il est souterrain.
C'est ça, c'est... oui, Clément Fayol.
Même en Libye, on parle notamment d'un réseau qui fonctionne très bien, qui est lié à l'État islamique de Libye, et sur notamment les migrants, et ça c'est quelque chose qui reste. C'est-à-dire quand il y avait le territoire de Daesh en Syrie, en Irak, ils ont envoyé des hauts responsables qui ont montré un peu le système à leur franchise africaine. Donc maintenant, en Libye, ils savent très bien aussi trafiquer, ils savent très bien gagner de l'argent sur ces réseaux mafieux.
Alors, il y a également aussi ce que vous appelez du trafic de migrants qui se fait au nez et à la barbe des forces militaires étrangères. Vous dites que le trafic de migrants, c'est une source de financement pour tous les groupes de terroristes de la région, y compris Daesh.
Voilà, c'est-à-dire le principe que tous ces flux de personnes passent souvent par des ponts à péage, en fait, contrôlés par l'État islamique. Et donc, du coup, comme c'est quand même des milliers de kilomètres de désert, il y a un moment dans cette chaîne économique où, effectivement, l'État islamique prend sa part.
Et ça se passe comment, Clément Fayol?
Pour rebondir là-dessus, nous, on a eu une confirmation d'un haut responsable français sur le fait, justement, que Barkhane, le dispositif militaire français, avait vraiment un vide juridique. C'est-à-dire que quand ils saisissent de la drogue, ils la détruisent. Quand ils saisissent des armes, ils les récupèrent, mais quand c'est des migrants, ils ne savent pas quoi faire. Donc là-dessus, il y a quand même un gros problème, surtout que nous, il y a des sources tout bout qui nous racontent que c'est environ 10 000 dollars par migrant, donc ça va quand même très très vite, c'est un trafic très lucratif.
Et puis ce sont des filières d'infiltration terroriste également, c'est ce que vous expliquez.
Oui, notamment avec un Français qu'on a suivi, qui était d'abord à Akimi, qui est parti du Havre, qu'on a pisté du début à la fin, et qui lui a rejoint Daesh en Libye et qui a notamment essayé d'organiser des attentats. Il y a eu plusieurs messages Telegram qui ont été interceptés où il invite des Français à passer à l'action et ou à utiliser justement ces réseaux de migrants.
Benoît Faucon. Oui, c'est ça. C'est-à-dire un groupe qui éparpille des sbires qui vont être de plus en plus difficiles à tracer et à repérer et qui vont bénéficier de trésors de guerre un peu partout dans le monde.
Voilà, c'est-à-dire qu'il va se greffer dans les zones de conflit, comme la Libye typiquement. Où il y a énormément de destruction, de familles qui ont été tuées, et donc aussi de jours de désert de vengeance. Et c'est tout près de l'Europe. Donc si on veut aller se venger contre, par exemple, la France, pour des bombardements ou d'autres aides militaires de la France dans le pays, on n'a qu'à traverser la Méditerranée.
Benoît Faucon, Clément Fayol, un cartel nommé Daesh. Je vous remercie d'être passé par France Inter. C'est paru aux éditions First et c'est la fin de l'émission.